Nova.
Nova.
Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive.
Salut à tous, on part à la dérive avec le musicien Bachar Markhalifeh. Ici, c'est l'âme de Beyrouth à Paris. Les grenades, le oud, les divas orientales et les musiques sacrées s'invitent dans notre balade. Et balade en arabe, ça veut dire pays.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, agissant directement sur le comportement affectif des individus.
À la dérive avec Bachar Markhalifeh, ça commence par un petit déjeuner libano-russe chez son amie la comédienne Tatiana Spivakova. On mange des grenades pour aller au paradis et on rêve d'un nouvel Éden libanais comme à l'époque de l'âge d'or. Avec le fils de Marcel Khalifeh, l'Orient et l'Occident composent un nouveau monde magique avec des chants cathartiques, des percussions hypnotiques, des volutes dans la ville et un cabaret perché sur les hauteurs. À la dérive avec Bachar Markhalifeh, ça commence maintenant dans le 19e à Paris, au pied d'un immeuble immense chez Tatiana.
À la dérive avec Aurélie Sfez.
يا أبي إخوتي لا يحبونني لا يريدونني بينهم يا أبي يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام يريدونني أن أموت لكي يمدحوني وهم أوصدوا باب بيتك دوني وهم طردوني من الحقل
C'est l'horaire parisien, ça. C'est de pire en pire.
Non, mais faut pas donner rendez-vous aussitôt, hein.
Moi, j'étais en retard en premier, pour vous dire la vérité. J'ai envoyé un message à Tatiana. Elle m'a dit tant mieux, parce que ça a arrangé un peu tout le monde, en fait, le retard.
Aurélie,
Tatiana, enchantée.
Enchantée. On s'est fait la bise ou même pas?
Non,
même pas. C'est nul. Je peux regarder depuis votre balcon, Tatiana? Vous venez avec moi?
Oula, ok.
Parce qu'en tant qu'à faire, on est chez elle. Hein.
Mais oui, c'est ça, c'est la maîtresse de maison.
Paris 19e. Voilà, on est au top.
On est tout en haut.
Et puis le soleil se lève ici et se couche de l'autre côté. Donc on peut prendre l'apéro sur l'autre balcon et le petit déj sur celui-là.
Bon,
vous voulez un café?
Oui.
Allez.
Merci. On est chez vous donc, Tatiana.
Absolument.
Pourquoi est-ce qu'on est ici, Bachar Markhalifeh? Vous m'avez dit rendez-vous chez Tatiana pour un déjeuner libano-russe.
C'est pas du tout.
Alors,
libano-russe.
Est-ce que c'est libano-russe?
Mais si, on va rattraper ça.
Des grenades, des chouquettes et des croissants.
Les grenades, c'est... Au Liban, on mange beaucoup de grenades.
Dans tout le Moyen-Orient.
Et Tatiana a aussi des origines arméniennes. Je crois qu'en Arménie aussi, on mange des grenades.
Ça symbolise quoi, la grenade?
La résurrection, c'est un fruit qui est présent dans toutes les religions. Selon les religions, on raconte différentes choses, mais en vrai, on raconte qu'il y a le même nombre de grains dans toutes les grenades, qu'importe la taille. Je crois que dans la religion juive, c'est exactement le même nombre de psaumes. Chez les chrétiens, c'est 365 grains, comme tous les jours de l'année. Et puis on dit aussi qu'il faut manger tous les grains jusqu'au dernier, parce qu'il y en a un d'entre eux qui t'emmènera au paradis.
Voilà, il faut s'envoyer tout le bol.
Bah écoute, c'est bon, non?
En même temps, les trois, c'est bon.
Et puis on raconte que les Arméniens qui fuyaient le génocide sont partis avec une grenade et sur le chemin, genre tous les kilomètres, ils mangeaient un grain pour tenir. C'est un fruit sacré quoi, qui a plein de significations, plein de symboles.
Elle sait tout sur la grenade.
Ouais, c'est pour ça qu'on vient chez Tatiana, parce qu'elle sait tout et j'apprends beaucoup à ses côtés.
Donc vous êtes russe arménienne?
Oui,
c'est ça.
C'est ça.
Vos parents ont fui le génocide arménien?
Du côté de ma mère, mon arrière-grand-mère a fui le génocide arménien, oui.
Vos parents, vous, Bachar, ont fui la guerre au Liban, donc tous les deux exilés.
C'est le destin de beaucoup de gens, en fait. Si on remonte quelques générations, bon, moi, c'était direct, c'était la guerre, je l'ai vécue étant petit. Je pense que dans beaucoup de familles, la majorité des familles sur Terre ont eu à partir à un moment donné, quelque part. Je pense aux gens qui se disent purs, quoi. Des gens qui sont nés ici, etc.
Ils se disent de souche, hein.
De souche, ou je pense que c'est une erreur historique.
Moi, ça m'a toujours fasciné, les gens qui étaient capables de conserver le même lopin de terre à travers les siècles, les générations. Enfin, moi, ça m'a toujours semblé surréaliste. Un jour, j'étais au mariage d'un copain français qui se mariait en Bretagne et qui me disait, tu vois, cette chapelle, elle appartenait à ma famille au XVIe siècle. Et tout. Et moi, ça me semblait mais surréaliste, quoi, dans ma famille. Mais si tu remontes à, je sais pas, même 10 générations...
On n'a rien.
Bah oui, on a toujours été obligés de fuir, d'abandonner, d'aller ailleurs. Et ça me semble normal, en fait. Enfin, moi, j'ai grandi dans cette normalité-là, en me disant que voilà, la société s'est construite sur la migration.
Donc. Avec toujours une valise dans la main.
Ouais. Et j'ai une passion pour les vieilles valises, je crois que c'est à cause de ça.
Ah, mais c'est vrai, vous avez plein de valises chez vous en plus.
J'ai toujours pas la nationalité française parce que j'ai la nationalité espagnole, donc tant que Schengen est là, ça me va bien, mais c'est vrai que.
Vous avez combien de nationalités en fait là ?
Deux.
Et vous, vous en avez combien, Bachar ?
J'en ai deux aussi, j'ai deux passeports, le passeport libanais et le passeport français.
Ah, vous avez la nationalité française ?
Oui, je l'ai obtenu en 98. Après la victoire des Bleus, je pense que c'était propice à beaucoup de naturalisation cette année-là.
D'où votre côté militant footeux.
Amoureux du foot. Je considère tout ça comme des papiers, des passeports. J'ai pas d'amour de la nationalité ni française ni libanaise. Je suis chez moi partout et je refuse tout hymne ou drapeau ou tout ça. Tout ça est en moi, tout ça.
Vous les appropriez.
Voilà, je crois qu'on est des êtres complexes et c'est très réducteur de parler de nationalité. On n'a pas besoin de passeport.
Je sais pas, moi chez vous je me sens chez moi. Hein. Pas que je me sens trop chez moi non plus.
Mais non, mais faites comme chez vous.
Je me sens assez chez moi. Nova.
محلى كيالير العمر لما حبيبي زار يميني هز القمر وعنيدي يا بدرو
rencontrer comment tous les deux vous allez travailler ensemble tous les deux.
Ouais, où je montais Les Justes d'Albert Camus.
Et je l'avais vu aussi dans Annabella. Il y a un sous-titre.
C'est dommage que ce soit une putain de John Ford.
Extraordinaire, qui parle de la religion beaucoup, de la morale, oui, quelque chose d'un modernisme absolu. C'est comme l'époque égyptienne. L'effervescence du monde arabe où la liberté était sacrée, où on avait des pas d'avance sur toutes les sociétés. Ouais. Et c'est très, très troublant pour nous, je crois, notre génération, de vivre une époque où on sent que tout est de plus en plus petit, tout est de plus en plus restreint. Et c'est vraiment un shoot... Un shoot d'énergie incroyable de lire des textes de 1600 qui parlent de telle liberté ou de chansons érotiques de l'âge d'or, de la musique arabe, etc.
Il y a une nostalgie, vous auriez aimé vivre dans les années 60, 70, au Liban.
Bah, j'ai beaucoup de nostalgie, mais je crois que la nostalgie, c'est c'est quelque chose qu'on a vécu. J'ai la nostalgie du Liban de mon enfance. Je crois que bien que c'était la guerre et que les gens s'entretuaient et que c'était un summum de la barbarie, j'ai des souvenirs d'amour, de solidarité, de moments de bonheur, peut-être dû aussi au danger dehors, à la maison, chez les gens, chez qui on allait, chez qui on logeait, etc. On se sentait très en sécurité et très, très heureux, en fait. Aujourd'hui, je recherche un petit peu, quand je retourne au Liban, je recherche un petit peu ces choses-là et je les retrouve pas forcément.
Années 60, on dit du Liban que c'est la Suisse du Moyen-Orient. Harmonie entre les communautés, paix et sécurité alors que la révolution nassérienne catalyse conflits et convulsions tout autour, prospérité des coffres-forts remplis de pétrodollars. La République favorise une liberté sans égale dans le monde arabe. La floraison de la presse se retrouve à la télévision. Férouz y impose la musique des frères Rabbani et contrebalance la prépondérance de la chanson égyptienne à tel point que le grand Abdel Wahhab en vient à composer pour elle. Férouz est devenue la dame du Liban, dont elle incarne les espoirs de jeunesse heureuse, de progrès constant et de plaisirs ensoleillés et innocents.
Tout à l'heure, on me parlait des petits déjeuners, Bachar. C'était comment les petits déjeuners chez vous ? Avec la fratrie, avec les parents ?
Le petit déjeuner idéal dont je rêve aujourd'hui encore, c'est toujours... c'est quand au Liban, on va... C'est le four, en fait, c'est une sorte de boulangerie où on amenait notre za'atar, qui est une sorte de... de mélange, il est là.
C'est
une sorte de mélange de thym avec des graines de sésame, du sumac. Et on donnait ça au boulanger, en gros. Et il étalait ça sur la pâte. Et il met ça au four et ça s'appelle manouche. Vulgairement, on appelle ça la pizza libanaise, mais c'est vraiment cette idée. C'est le peuple qui mange ça. C'est la chose la plus basique qu'on peut trouver au Liban. Et c'est l'odeur de mon pays, quoi.
Ça, c'est pour faire les feuilles de vigne.
Ça, c'est des feuilles de vigne, ouais. Ça, c'est tout ce que Tatiana a ramené de son voyage au Liban. Elle me montrait.
Est-ce que vous écoutiez la musique en prenant le petit déjeuner?
Non, mais ma mère chantait pas mal, en fait, tout le temps. Encore aujourd'hui, quand elle prépare le café, elle chante. Et elle n'a pas de pub, quoi. Donc c'est mieux que la radio, c'est mieux que tout ça.
Est-ce que vous pouvez zapper quand vous n'aimez pas ce qu'elle chante ?
Non, j'aime ce qu'elle chante,
vous aimez tout ce qu'elle chante,
bien sûr. Tout ça, c'est le territoire de mon enfance. J'essaie de retourner assez souvent dans ce lieu, puisque c'est un lieu défini, avec mais qui est ouvert à tous, évidemment, hein, qui n'est pas
exclusif. C'est un imaginaire ? C'est un lieu dans votre tête ?
Oh, je crois qu'on y... Oui, après, on imagine beaucoup de choses, on fabrique beaucoup de choses. Je me souviens de m'envoler quand j'étais petit. Je ne sais plus si c'était vrai ou si c'était faux.
C'était vrai.
Sûrement. J'essaye encore parfois
non, faut pas
essayer. Je ne peux plus.
Ça marche que quand on est petit.
Ouais. Pour la scène, c'est une grande source d'inspiration de se dire que tout ça, c'est possible, quoi. Et d'essayer de recréer ça par moments.
Vous étiez quel genre de petit garçon, Bachar Markhalifi ?
Très joyeux. En fait, je crois que j'étais un peu comme je suis aujourd'hui, joyeux, mais assez secret. J'étais plutôt calme, ouais. Ma mère m'appelle, même aujourd'hui, elle m'appelle encore Bachoura. C'est le petit Bachar, quoi. Je pensais aux bêtises. Je pense que c'est après que, que j'ai commencé à faire les bêtises en quittant l'enfance.
Qu'est-ce que vous avez fait à Bachoura?
De prendre des risques, de partir un jour de tempête dans la mer avec une sorte de barque plate. En fait, au Liban, on appelle ça haske. C'est ce qu'utilisent les pêcheurs. Moi, je mettais comme ça des défis un peu dangereux, quoi.
Un aventurier fou.
Ouais, invincible. Vous écoutez À la dérive avec Bachar Markhalifé et Aurélie Sfez sur Nova.
À côté de ta mère.
Allons-y, allons à la dérive.
On va où à la dérive ?
J'aimerais aller dans un quartier dans lequel j'ai habité à Paris, le quartier des Abbesses, un lieu où j'allais particulièrement pour me couper entièrement de ce qui se passait dehors.
Oh, je sens qu'on va aller à l'église.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Okay. On a presque fini toutes les grenades, on a bien mangé. Vous avez pris un petit instrument avec vous ?
J'ai pris un melodica.
До свидания, Татьяна.
До свидания. Всего доброго.
Pourquoi on fait descendre au moins 1, je comprends pas.
Le rez-de-chaussée de cet immeuble se trouve au moins 1.
Un monde parallèle. Bien le métro.
Ouais,
il y en a qui détestent. Hein.
J'aime beaucoup le métro. C'est le cœur aussi de la ville, le métro. Chaque station a son histoire. On croise tout le monde.
On croise les musiciens.
croise des musiciens, ouais, j'adore.
Il y a des super, hein.
Bien sûr.
Moi, j'adore Mohamed Lamouri sur la ligne 2.
Oui, je ne l'ai jamais croisé, malheureusement.
Mais je...
Il y a une sorte de starification des musiciens.
Là, on est place du colonel Fabien. Il y a le siège du Parti communiste, enfin l'ancien siège du Parti communiste. Cette espèce de soucoupe volante.
C'est un super lieu. Là. C'était l'ancien. Ça,
c'est l'ancien siège du Parti communiste, ouais.
D'accord. Kubrick aurait bien tourné là-dedans, je pense.
Vos parents, ils étaient plutôt communistes ou pas?
Tous les Libanais, de toute religion confondue, pouvaient se retrouver dans le Parti communiste s'ils ne militaient pas dans les autres partis qui étaient tous confessionnels, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les partis politiques au Liban sont basés sur la confession. Que ce soit les chrétiens maronites, les druzes, les musulmans chiites, les musulmans sunnites. Chaque confession a son propre parti politique, sa propre équipe de sport, sa propre chaîne de télévision, etc. Et c'est vrai que le Parti communiste, à l'époque, il allait à l'encontre de tout ça et réunissait les Joseph et les Ali et les Mustapha et les... Et les Antoine, etc. Donc c'était un
parti
lieu
d'espoir, quoi.
Oui, d'espoir, de jeunesse.
Progressiste.
Progressiste.
On appelle aujourd'hui progressiste. Ou la classe, on va dire, plutôt intellectuelle aussi, se retrouver.
Bien sûr, tous les intellectuels de gauche, les artistes, etc.
Mais après, il y a eu le procès moral du communisme.
Bien sûr, après, c'était...
On s'est rendu compte des ravages du communisme.
La soif du pouvoir... Les communistes ont voulu, entre guillemets, tuer Dieu aussi. Ils ont adulé d'autres personnes, d'autres êtres humains, en disant que c'était Dieu. Je pense à Staline, etc. Mao, c'était la fin de l'idéal.
La démocratie reste un idéal ?
C'est dur, la démocratie, c'est dur parce qu'elle est en danger permanent.
Vous luttez pas avec les poings, vous luttez pas avec les armes, vous luttez pas avec la haine, vous luttez
de la plus belle manière
qui soit, oui. C'est-à-dire artistiquement, au bout d'un moment, il n'y a que l'art qui nous sauve.
La lutte, la révolution n'est pas censée être uniquement violente, etc. Et je crois que toute révolution sociale doit partir... d'une révolution personnelle.
Par où on va, la ligne 2? Ah oui, Pigalle.
Oui,
Pigalle,
on peut marcher un petit peu.
Vous avez déjà joué dans le métro, Bachar Markhalifé?
Non, jamais. Et j'ai une grande hantise de... Chaque fois qu'il y a des pianos, par exemple dans les gares, etc. Je suis avec des amis, parfois ils me disent « Allez, tu nous joues un truc et tout. » Je ne peux pas. Je crois avoir une grande partie... de pudeur et de timidité, une grande timidité face à ça, qui n'a rien à voir avec le fait d'aller sur scène, en fait.
C'est quoi la différence ?
Je fais toute la journée, tout ce que je vais faire, ce sera dans l'objectif d'aller sur scène et de faire le concert. C'est pas quelque chose que je prends à la légère, quoi. C'est pas les concerts s'enchaînent et allez, on y va, c'est facile.
Chaque concert est un rituel ?
Ouais, c'est vraiment... Chaque concert est le dernier.
Bonjour, bonsoir, qui fait le hal? Je suis écarté, je suis. Fais un détail qui est un almoun. Je suis écarté, je suis cool. Fais un détail qui est un school. Ahla, je suis appelé le bouche à la bouche. N'ai pas de chute de vodka à la bar. On est né sahra à la balcon.
la dérive avec Aurélie Sfez.
Et avec Bachar Markhalifeh, on est descendu métro Pigalle. C'est ici que Bachar a fait la vie parisienne et qu'il a écrit ses premières chansons sur des carnets. Plus haut, l'église des Abbesses a toujours été son havre de paix. De Jean-Sébastien Bach à Fayrouz, ses passions sont grandes et son amour de la musique est illimité. On a grimpé la rue des Martyrs et on a tapé l'incruste chez Michou. À la dérive, ça continue sur les pavés, ici et là-bas, avec les grandes divas des cabarets. Alors, Pigalle, à gauche le Moulin Rouge, ces ouais. trucs en plumes.
J'ai habité là pendant 2 ans. J'avais fini les études au conservatoire à Paris. J'étais en percussion, en classe de percussion. Après ça, j'ai habité un petit peu à Paris. C'était mon rêve d'habiter...
Dans Paris.
Dans Paris. L'époque de la jeunesse, de... J'errais beaucoup dans les rues, dans les bars ici. Avec mon petit carnet déjà à l'époque où j'écrivais ce que je faisais dans la journée.
La vie parisienne, vous avez fait la nuit parisienne?
Oui, je faisais que la nuit parisienne. Et j'aime beaucoup ce côté-là de la ville qui est d'être incognito en fait, de jamais croiser les mêmes personnes, d'être avec des touristes et d'être avec des Parisiens et d'être avec des gens
de passage.
De passage.
À gauche, Madame Arthur, là on est rue des Martyrs.
Oui, il y avait...
Madame Arthur, Michou et tout, Michou. J'aimerais bien qu'on puisse rentrer là.
Il y avait...
C'est vraiment bien. On ne peut pas rentrer là 2 secondes.
Ah là,
moi, je n'ai jamais rentré. Hein.
Là, je ne sais pas si c'est ouvert à cette heure-ci. Hein.
On est, chez Michou ou chez Madame Arthur.
On est assez tôt. Vous
préférez Michou ou Madame Arthur?
Je connaissais... Enfin, Michou est plus connu, je crois. Hein,
on peut essayer chez Michou.
Oui, bien sûr.
On va essayer. Bon, s'ils nous disent non, ils nous disent non. Mais... Vous êtes déjà travesti, Bachar?
Quand j'étais enfant, j'aimais bien mettre les colliers de ma mère, du rouge à lèvres, des choses comme ça. Je le faisais assez souvent, ouais, c'est vrai.
Bon, j'ai sonné, j'ai écrit Michou sur une plaque en or. Hein.
Lieu historique.
Merci. Bonjour.
Bonjour.
On est Radio Nova.
Moi, je suis simple technicien, mais vous voyez que la responsable...
Ouais, on va voir avec la responsable. Merci.
Je vous en prie.
C'est génial. Il y a des photos de Michou partout. Bonjour Catherine. Je m'appelle Aurélie.
Oui.
Je travaille à Radio Nova.
Oui.
Je fais une émission qui s'appelle À la dérive.
Oui.
Et je suis avec Bachar Markhalifeh, qui est musicien franco-libanais. Mm-hmm.
D'accord.
Et on allait aller à l'église Place des Abbesses et on s'est dit, tiens, on va passer devant chez Michou, on va rentrer juste pour jeter un œil.
Ah, d'accord.
Vous nous feriez une micro-visite?
Oui, je vais vous faire voir.
Oh, vous êtes trop sympa. On était sûr que vous étiez sympa. Il n'y a personne, la personne est dans les loges, ni rien.
Non, là, dans les. Non, entrez.
À 18h, le personnel arrive, met en place.
Là, on descend.
Et là, on descend donc dans tout ce qui est le niveau. Donc, les commodités pour les clients. Et puis là, vous allez avoir ce qu'on appelle nos loges. Donc, vous voyez, c'est les loges. Là, on ne peut pas accéder. Mais quand vous allez par là, donc les garçons accèdent à la scène.
Mmh. Ah ben, moi qui suis passé devant... Une centaine de fois peut-être. Je suis vraiment très heureux. En plus, un accès aux loges, c'est vraiment un univers très familier pour moi.
Là, vous avez vraiment, là, on est en train de remettre tout en place, puisqu'on est ouvert 7 jours sur 7. Hein, donc là, il y a tout ce qu'on appelle les costumes du final. Voilà.
Il y a des têtes à coiffer, du maquillage.
Oui. Là, vous avez la perruque de Dalida, on a toutes les. Sylvie Vartan, tout est là.
Dalida, c'est celle-ci?
Ah non.
Non.
Dalida,
elle est là.
Elle est blond, vénitien. Et là, on a Mylène Farmer, Sylvie Vartan.
Ah, tous les costumes.
parce qu'il y a des numéros quelquefois qu'ils font le soir, ils le font pas, ils sont là tous, il y en a tellement.
Succès foudroyant cette année, les spectacles burlesques de travestis. Ce soir, 80 rue des Martyrs, chez Michou.
Que je ressemble à France Gall.
Oui, ça va.
Je suis cabaretier depuis 14 ans.
Vous vous appelez ?
Cathy Michel, j'ai 39 ans.
C'est vous Michou ?
C'est moi Michou, oui. Comment s'est passée l'évolution de votre établissement ? Car au départ, c'était un restaurant et maintenant, c'est une boîte de nuit, un carcon. Non, c'est pas une boîte de nuit, c'est un tout petit spectacle qu'on a monté entre trois bons copains. Vous voyez, un genre, si vous voulez, au départ, c'était un canular. On n'a jamais cru à la réussite comme ça. Ce qui s'est passé, voilà, c'est qu'à Montmartre, on ne s'amuse plus, il n'y a plus rien de drôle. Et les gens, pour faire venir les gens à Montmartre maintenant, il faut de même quelque chose d'assez drôle, piquant, et je pense qu'on y a réussi. Et bien, on a monté ce petit spectacle, un genre de parodie, vous voyez, sur des artistes qu'on aime.
Je suis un bébé requin.
Et Michou, il arrive à quelle heure ?
Michou arrive, il est normalement 19h30, puisqu'il a fait son livre Michou, le prince bleu de Montmartre. Donc, il lui prépare ses dédicaces. Et donc, le soir, il dédicace son livre. Il travaille tous les soirs, Michou.
Il est là tout le temps, Michou ? Il rate pas un soir ?
Ah non, jamais.
Bachar, est-ce qu'au Liban, il y avait des cabarets comme ça, à l'époque de l'âge d'or de Beyrouth et du Liban ?
Alors, travesti, non, mais il y avait beaucoup de cabarets, évidemment. Même encore aujourd'hui, si on fouille un peu, on trouve des cabarets qui...
Clandestins ?
Bien sûr, qui accueille beaucoup d'ailleurs les travailleurs qui travaillent dans les maisons, qui sont souvent étrangers.
Vous voyez, puis là, c'est beaucoup de photos d'artistes.
Il y a quoi sur ces photos ?
Ah ben, c'est tous les souvenirs à Michou. Vous allez de tout. On a Arletty, il y a Dalida, il y a Philippe Clay, il y a...
On a Jacques Chirac aussi.
Ah, où est-ce qu'il est, Jacques Chirac ?
Il est là, Jacques.
Madame Chirac.
Formidable.
Johnny
Michou
Hallyday.
Et Romy Schneider.
Romy Schneider. Oh là là, quelle mignonne. Michou et Florence Foresti, Michou Alain Delon. Oh, Joséphine Baker.
Jeanne Moreau.
Michou et Bernadette Chirac.
Oui.
Ils ont presque la même coiffure.
Presque, ils ont le même coiffeur.
Catherine, vous n'êtes pas travestie, Catherine ?
Ah non, Catherine n'est pas travestie.
Catherine n'est pas travestie.
Service réservation, accueil client, la journée. Les travestis, c'est pour le soir. Et là, vous avez une des plus petites scènes, ici.
C'est ça la scène de chez Michou ?
Bien sûr. C'est une des plus petites scènes.
C'est une des plus petites scènes du monde.
Il s'y retrouve très bien sur la scène, d'ailleurs. Et donc, souvent, il fait venir un accordéon pour l'ambiance. Ah bah ici, on s'éclate, oui. Oui. C'est un monde intéressant.
Qu'est-ce que vous avez appris dans ce monde ?
À côtoyer les personnalités, déjà. Il y a complètement plein de personnalités différentes. Tout le monde passe ici.
Tout le monde passe.
Ouais.
Moi, je me souviens, à Pigalle, quand j'étais petite, Pigalle, on voyait dans la rue des prostituées, on voyait des travestis.
Ah oui, il y en avait plein le trottoir ici.
Il n'y a plus rien.
Les gays, c'était toujours en train de blaguer. C'est un humour, c'est un folklore.
Ouais.
Qu'il n'y a plus, c'est terminé.
Qui était complètement mélangé à la vie du quartier,
oui,
qui faisait partie de la nuit.
C'était drôle, quoi. On se voyait, on se parlait, ça commérait dans le quartier.
Pourquoi il n'y a plus rien ?
Ça se perd ? Non, c'est une époque.
C'est une époque.
C'est une époque, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une très belle... Je pense que pour eux, c'est une très belle époque. Ah ouais, quand Michou en parle, il peut en parler des heures de ça. Ce qui s'est passé, surtout dans Montmartre, par ici, Pigalle, tout ce qui est, c'est un quartier, il a complètement changé.
C'est beau, ça fait rêver. Hein.
C'est beau, hein.
Ça fait rêver.
Il y a des lustres partout.
C'est un peu l'histoire du livre sur lequel je travaille en ce moment, qui parle de Aux nuits, aux mes yeux. C'est aussi l'histoire des cabarets du Caire, à l'époque, au XXe siècle, où c'était une époque magnifique et presque révolue aujourd'hui.
On pense à Dalida, obligatoirement égyptienne.
Oui, bien sûr, mais Dalida, c'était déjà assez tard. Hein. Les cabarets au Caire, c'était les années 40, 50.
Oum Kalsoum
a commencé dans les cabarets. Bon, elle était déguisée en garçon,
ouais,
d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Parce que elle chantait, pour une petite fille, c'était un petit peu trop osé. Donc, son père l'a déguisée en garçon.
Et elle chantait en famille dans les cabarets. Après, y a Sabah qui est très connu. Qui a vécu jusqu'à l'âge de peut-être 85, 90 et qui s'est marié une vingtaine de fois et qui a fait beaucoup d'opérations chirurgicales. Et donc y a les chanteuses aujourd'hui, au Liban et dans tout, il y a beaucoup de chirurgie en fait esthétique dans les visages, dans les il y a comme un code esthétique de la chanteuse assez vulgaire quand même et complètement en déconnexion avec parfois la société qui est très où on doit cacher les choses, etc. Mais à la télé ça passe. C'est devenu un Las Vegas,
un petit peu une créature libanaise.
Voilà, ouais.
Merci Catherine.
Merci.
Donc tous les soirs.
Ah, tous les soirs.
Soirée, ce soir.
Oui, c'est une journée, puis après, on a la soirée.
Ouais. Merci Catherine.
Travail m'appelle. Mais écoutez, bonne journée à vous.
Salut, au revoir. Alors celle-là, hein.
Alors, merci.
Ah ben, je vous en prie.
Merci. A pu raconter. Moi, ça m'aide aussi pour l'écriture du spectacle en ce moment, sur les cabarets, etc.
C'est ça. Je sentais que ça pouvait coller. Je me suis dit.
Et y a la nostalgie dans les yeux de cette dame, dans sa voix. Sa voix est superbe, ouais. Elle porte beaucoup d'histoires.
Là, on arrive là, on est où là ? Ça y est,
là, on arrive place des Abbesses. Moi, je montais souvent cette rue. Je m'arrêtais, je rentrais dans cette église pour couper avec tout ce qui se passait. Le recueillement, les gens silencieux, des gens qui prient aussi.
On va prier.
On va se taire.
Ah non, moi je vais vous parler dans l'église. Un petit coup d'eau bénite sur le front.
C'est ma mère qui me faisait ça quand j'étais petit au Liban, quand on rentrait dans des églises. C'est un lien avec les gens que j'aime, tout simplement. Donc quand je fais ce geste, c'est une manière de me connecter à eux. Et j'aimais me mettre dans ce petit coin.
On va se mettre dans le petit coin. On va s'asseoir là. Vous faites une différence entre religion et spiritualité, Bachar Markhalif.
Bien sûr. Je crois que la religion a été une erreur politique. Et qui n'a pas d'issue, même aujourd'hui. En fait, elle exclut l'autre, forcément, même si le discours officiel est différent. La politisation et le côté systématique, par exemple au Liban, c'est tout un système basé sur la religion. Par rapport à la censure, par exemple, on en avait parlé il y a quelques années. Refuser la liberté des êtres, de chacun, de penser autrement, de s'habiller autrement, de réfléchir autrement, ou de sentir différent, de sentir l'amour, sentir. Mais je crois qu'on a tous besoin de sacré. Un concert, pour moi, est une sorte de grand moment de spiritualité qui nous détache de la médiocrité ambiante qui est partout autour de nous. Jésus, par exemple, était un grand artiste, je crois. Il a repoussé les limites en prenant l'amour. Je sais pas, c'est un exemple de lutte. Puis la résurrection,
c'est important, c'est inspirant comme.
Vous y croyez à ça ?
Artistiquement, bah c'est tous les jours, c'est à chaque concert, c'est renaître de ses cendres. Là, j'y pensais aussi quand on était chez Michou, de dire que tous les soirs, ces gens meurent sur scène, et même les gens, jusqu'à pas d'heure, et le lendemain, il faut renaître.
Vous avez parlé de censure. Votre père, Marcel Khalife, lui a été censuré parce qu'il a chanté des sourates du Coran.
Il a chanté un poème de Mahmoud Darwish dans lequel Mahmoud Darwish avait parlé de l'histoire de Joseph ou Youssef. Et c'était une sourate du Coran, effectivement. Ouais. Mais ce sont les instruments à cordes qui, dans certaines interprétations, sont interdits par le Coran. Et donc ça a créé quelque chose sans précédent au Liban, et il est sorti victorieux de cette histoire, mon père. Le tribunal, la justice libanaise a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte à la religion et qu'il y avait au contraire quelque chose qui forçait le respect. Et c'était un procès, oui, atypique, mais qui reflète quand même un gros problème de censure au Liban.
Mit sini sumu psalli irhamni ghinai li ajlak li ajlak ya rab samti li ajlak لأجلك يا رب.
Kyrie Eleison, donc censuré par la Sûreté Générale, c'était en 2016. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Kyrie Eleison qui posait problème ?
Je m'adresse à Dieu, en fait, et je lui demande, pour ma dernière prière, de nous épargner, également de nous laisser tranquilles. Donc c'est un ton un petit peu...
impératif.
C'est un ton peut-être un peu provocateur par rapport à ce que peut représenter Dieu pour les instances religieuses. Je me suis rendu compte que j'étais pas aussi le seul à être censuré au Liban, et que cette Sûreté Générale avait tout un catalogue d'œuvres cinématographiques, littéraires, pour des choses parfois très, très insignifiantes, qui sont censurées de peur de réactions qui pourraient déstabiliser le pays, qui est basé encore sur des confessions. Mais j'ai beaucoup d'humour par rapport à ça. J'ai ma propre relation avec les autres, avec Dieu également. J'ai une relation très, très amicale.
Vous avez le droit de lui demander des choses, de vous fâcher avec lui.
Je suis fâché, je doute. Je crois qu'on manque beaucoup d'humour quant à tous ces sujets-là, en premier lieu face au sujet de la religion.
Vraiment, vous dérivez Orient-Occident, quoi, tout le temps.
Bah, en fait, c'est très évident pour moi. C'est mon monde, c'est un seul monde, en fait. Il n'y a pas de différence. Mais je suis pour rentrer dans les églises et jouer du rock également. Ou dans les synagogues, ou dans les mosquées. De jouer du rock, de jouer du rap, que ces lieux accueillent la nouvelle musique sacrée d'aujourd'hui. Qui est toute musique doit être sacrée. Et pas commercial, c'est l'opposé en fait. C'est Beethoven.
C'est l'hymne à la joie.
Ouais. Ici, c'est le chemin que je prenais après l'église. Je montais à Montmartre, marchons
un peu. Marchons un peu et on va faire de la musique quelque part.
Dans un endroit voilà. Calme alors.
Il faut qu'on se trouve un spot pour faire de la musique.
Je dois me cacher du regard des autres.
C'est mal barré là. Hein.
Non mais on va trouver, il y a des coins secrets un petit peu.
Il y a quand même une histoire de famille, il y a beaucoup de familles, de musiciens. Bon. De votre père, Marcel Ralifé, vous, il y a votre frère, Rami. Votre maman qui chantait tout le temps. Alors votre grand-père, je ne sais pas, je crois qu'il était pêcheur.
C'est mon arrière-grand-père.
Arrière-grand-père était pêcheur.
Il était pêcheur et par contre qui jouait aussi...
De la flûte.
De la flûte, effectivement. Mon père me raconte toujours qu'il est parti un jour en Égypte suivre une danseuse dans les cabarets, justement, pour lui jouer de la musique. C'est de la mythologie pour moi, quoi. C'est...
Mythologie familiale.
C'est ça. Mais la musique, évidemment, c'est le fait d'avoir grandi dans... Avec mon père, le oud très présent dans l'histoire familiale, comme un instrument qui fait partie de la famille.
On va monter les marches.
Ouais. Le voir sur son bureau à écrire de la musique, comme une sorte de philosophie de vie, de se dire que il n'y a rien qui existe si on ne se donne pas totalement à la musique.
Dans vos albums, il y a beaucoup de paysages sonores, dans des espaces où, à l'intérieur, il se passe de la transe aussi, on est beaucoup dans la durée. Si vous deviez décrire le son de Beyrouth ?
Beyrouth, c'est beaucoup de sons, effectivement,
oui.
Beaucoup de bruit. Le klaxon est omniprésent.
Une symphonie de klaxons.
Oui, customisée. Ils ont même des claviers, je pense, à trois notes.
Ah bon ?
Pour klaxonner.
Ah, c'est bon, ça.
Il y a aussi les
marchés ambulants.
Les marchands ambulants, oui. Avec des charrettes qui vendent du maïs, qui jouent de la musique, j'entends, rythmique, avec une sorte de pince en fer pour appeler les gens. Mais tout ça fait partie de la ville et ça a quand même un certain charme musical, on va dire.
On voit là, tout Paris, là.
Ouais, je crois que ça fait beaucoup de bien de monter comme ça dans... Que ce soit sur le toit ou sur les toits des maisons ou sur les sommets des montagnes ou les sommets d'une ville comme ici.
On a besoin, oui, peut-être on a besoin de grimper.
Il y a la mer pour ça qui est très, très, très fort.
Mais parfois quand on regarde la ville d'en haut, comme là on voit Paris, parfois moi je vois la mer.
Vous avez une bonne vue, Aurélie.
Vous voyez pas la mer là, derrière la tour Eiffel, la mer du Nord?
Bien sûr, la mer est partout, au bout.
Au bout, il y a la mer.
Là, on peut se mettre ici.
On peut se mettre là, ça vous branche, là? Là, sur ces petites marches-là. Oh, c'est un petit jardin fermé. Vous n'avez pas l'esprit d'escalade? Donc un petit mélodica, un clavier avec un tuyau, il s'appelle Victory.
À À la dérive, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain. Le dernier disque de Bachar Marc Khalife s'appelle Waterwheel et il sera en concert le 15 mars au Collège des Bernardins à Paris. À la dérive, c'est Aurélie Svez au micro, Bertrand Chameton aux manettes et en podcast sur nova.fr. À dimanche prochain et d'ici là, bonne balade à tous sur Nova.
Ah!